de l'essor informatique avec l'Internet, notamment début des années 90, plus particulièrement 94-95, du fameux vide juridique. On avait tous entendu parler, les journaux se sont faits, les échos, ils parlaient de vide juridique. Quel droit allons-nous appliquer à l'Internet? Quel droit pour les délits infâmes commis sur les réseaux? On s'est rapidement aperçu que le vide n'existait pas, sauf très très loin dans l'espace, et encore, on peut se poser des questions. Les scientifiques montrent qu'il existe des infimes particules qui représentent 99% de la masse de l'espace. Donc, le vide n'existe pas, pas plus dans la réalité que dans son appréhension par le droit. On s'aperçoit au fur et à mesure de l'application du droit aux technologies d'information qu'en fait on a plutôt un trop-plein de droit qu'un vide juridique. Un trop-plein de droit parce que les technologies d'information ont fait exploser les frontières. Le droit en général et le droit pénal en particulier sont l'expression de la souveraineté des États. C'est-à-dire qu'ils ont un aspect territorial. On définit un droit, parce qu'on est un État, et on l'applique au sein de ses frontières. Comme vous le savez, les technologies d'information, les réseaux interconnectés, l'Internet, eh bien, font exploser véritablement les frontières. Ça nous amène à nous poser des questions sur les règles de compétences en matière pénale, puisque c'est particulièrement le cas d'aujourd'hui, et puis les règles de compétences en matière internationale. C'est un délit est commis avec l'utilisation des réseaux, mais que certains éléments ont lieu en France, en Espagne, en Russie, aux États-Unis. Quel droit appliquer, comment l'appliquer, comment coopérer? Eh bien, c'est l'objet de toutes les discussions qui ont lieu dans les instances internationales. Alors, je scindrai en deux ma présentation. D'abord, l'aspect purement national, c'est-à-dire la répression des infractions bioéthiques par le droit national français. Et puis, son appréhension par le droit international. Quand je parle de droit international, eh bien, je parle des instances internationales, particulièrement du Conseil de l'Europe, avec la Convention sur la cybercriminalité de novembre 2001, et puis le droit européen, à proprement parler, qui intègre au fur et à mesure un certain nombre de dispositions, de préconisations, dans une tentative d'harmonisation des infractions et des procédures. Le droit a pour challenge face au réseau, eh bien, de contrecarrer la volatilité de l'information. L'avocat, c'est souvent l'homme de la preuve. Le juge aussi, et plus particulièrement l'avocat, puisque c'est lui qui doit démontrer au juge quels sont les faits qui sont reprochés à telle ou telle personne, et de leur démontrer la réalité. La volatilité des informations, c'est le fléau pour le juriste de l'Internet. C'est pour ça que la législation actuellement appréhende différents moyens pour obliger les prestataires, les intermédiaires à conserver, à archiver un certain nombre d'informations et tout particulièrement les données de connexion qui concernent plus spécifiquement les gens qui travaillent, il va y en avoir beaucoup ici, dans le domaine des télécommunications. Alors les infractions qui sont liées aux technologies d'information, eh bien, sont extrêmement nombreuses. Ce sera impossible ici, même en 3 heures, de vous en dresser le panel complet, puisque dès lors que l'on va pouvoir utiliser l'outil informatique pour commettre un délit, eh bien, on rentrera dans ce type de qualification. Je vous renvoie là à tout le droit de la communication, c'est-à-dire le droit de la presse, le droit de l'audiovisuel, tout ce qui concerne la diffamation, le colportage de rumeurs, de fausses nouvelles, d'atteinte aux intérêts de l'État, à la sécurité publique, etc. Toutes ces infractions qui sont appréhendées par le droit de la communication, bien évidemment, ont vocation à s'appliquer spécifiquement lorsque sont utilisées les technologies d'information. Le plan de l'exposé, je vous l'ai dit, la répression pénale en droit français et puis l'organisation de cette répression pénale au niveau international et communautaire. Je verrai donc la répression des atteintes au système d'information pour en parler et la répression pénale lorsque les TIC ont servi de moyen de commission de cette information. Les principaux textes, vous connaissez tous la loi informatique et liberté qui est codifiée dans notre code pénal, les articles 226.16, 226.24, concerne toutes les données nominatives ou les données à caractère personnel telles qu'on les qualifie en droit européen. Je m'attarderai sur l'article 226.17 qui en fait concerne plus particulièrement les gens qui travaillent dans le milieu des télécommunications et les gens qui sont maîtres d'un système. Parce que vous êtes maître d'un système que vous collectez des informations à caractère personnel, vous avez un certain nombre d'obligations, obligations de déclaration préalable à la CNIL, toutes ces obligations d'information, de collecte loyale, etc. Et vous avez une obligation qui est souvent extrêmement méconnue, qui est l'obligation de sécurité. Pèse sur le maître du système qui collecte les informations une obligation très forte de sécurité. Il doit mettre en œuvre tous les moyens pouvant garantir la sécurité des informations qu'il a collectées. Et s'il ne met pas en œuvre tous les moyens qui permettent cette sécurité, eh bien il engage sa propre responsabilité pénale. Ça veut dire une chose importante que vous retiendrez. Lorsque une société va déposer une plainte pour atteinte à son système de traitement automatisé de données, entre guillemets un piratage, j'ai été piraté, on est entré dans mon système de traitement automatisé de données, dans mon système d'information, et on a pillé ma base de données personnelle, je dépose plainte auprès du procureur de la République. La procédure suit son cours, et à la fin de la procédure, il y a un certain nombre de gens qui ont été victimes en parallèle de l'entreprise, eh bien, qui se joignent à la procédure et qui disent « Mais moi, ce sont mes informations et données à caractère personnel que je vais confier à l'entreprise qui ont été atteintes. Vous avez déposé plainte, certes, est-ce que vous avez respecté votre obligation de sécurité ? Je dépose plainte également contre vous, puisque vous n'avez pas respecté votre obligation de sécurité. Démontrez-moi que vous avez mis en œuvre tous les moyens pour garantir la sécurité de mes données. » Et là, le chef d'entreprise, le maître du système, il engage sa responsabilité pénale, au même titre que le délinquant qui sera venu lui pirater les données. Donc j'insiste vraiment sur cet article 226.17 qui est parfaitement méconnu mais qui est d'une grande importance. Voilà, l'affaire Pitez-toi, c'est un petit peu ça. Ça a été jugé dans ce sens-là en première instance, mais ça a été réformé en cours d'appel puisque le maître du système, en fait le webmaster entre guillemets, qui était rentré dans le système et qui avait alerté le maître du système sur les failles de sa sécurité, n'était pas rentré par un moyen détourné, mais était rentré par un moyen qui était accessible à tout internaute de compétences moyennes, c'est-à-dire par la barre d'adresse, il avait mis un slash, il était rentré dans admin, desk, tout ce que vous voulez, et il était rentré dans le système de cette manière. Donc, de ce point de vue-là, l'infraction d'atteinte au système de traitement automatisé de données n'était pas caractérisée. En revanche, la responsabilité du maître du système, la responsabilité pénale du maître du système, qui n'avait pas mis en œuvre tous les moyens pour que les données soient protégées, elle pouvait être engagée. Le secret professionnel intéresse beaucoup de professions, je ne parle pas du secret défense. Le secret professionnel, beaucoup de professions s'informatisent et sont informatisées. Je parle des avocats, je parle des notaires, je parle des huissiers de justice, je perds beaucoup sur Internet, je parle des médecins et de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine social. Ces personnes-là font transiter des données qui sont particulièrement protégés par le secret professionnel, ils sont protégés par leur propre responsabilité pénale. Lorsque une atteinte sera faite à ces données professionnelles, ces données qui sont soumises au secret professionnel, eh bien, à la fois la responsabilité pénale de celui qui est responsable de ces données pourra être engagée, également celle du délinquant qui sera rentré dans le système. Cette notion de secret professionnel est importante et souvent à rapprocher d'éthique. Une autre qualification extrêmement importante, c'est le secret des correspondances. Vous voyez tous dans la presse souvent des petites affaires en jurisprudence sur des atteintes au secret des correspondances via l'email. Rien de plus facile que de copier des emails, rien de plus facile que de rentrer dans la boîte Outlook Express de son voisin de bureau, avec qui on partage un PC, et puis de découvrir que rien de plus facile de contrôler le travail de son salarié lorsque l'on est un chef d'entreprise, en regardant ce qui se passe sur les courriers personnels pour essayer de parvenir à démontrer une faute de son salarié et éventuellement le licencier. À cela, il faut être extrêmement prudent. Certes, l'employeur a la faculté de contrôler le travail de ses salariés, mais il ne peut pas attenter au secret des correspondances, qui est un droit fondamental, rattaché au droit au respect de la vie privée. Les dispositions de la loi Godefrin. Alors, les dispositions de la loi Godefrin sont les dispositions à proprement parler qui viennent protéger les systèmes de traitement automatisé de données. C'est une loi qui a été votée en 1988 et qui a été amendée au fur et à mesure. Alors, elle protège les accès frauduleux dans les systèmes de traitement automatisé de données, c'est-à-dire les accès non autorisés, mais elle protège aussi contre le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. C'est-à-dire lorsque vous avez le droit d'accéder à un système de données, mais par exemple vous n'avez le droit que d'y rester pendant tant de temps, ou de n'y chercher que tel type d'information, que d'accéder qu'à tel type, et que vous vous y maintenez malgré le fait que vos droits soient expirés, eh bien vous commettez cette infraction, ce délit de maintien dans un système de traitement automatisé de données. Je vous donne un exemple très simple que font tous les étudiants, que font beaucoup de gens, que font beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas mettre à jour leur logiciel. Vous avez Norton Antivirus, et puis vous vous dites, j'ai pas la dernière version de Norton Antivirus, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir la version de Norton Antivirus, puisque mes droits au renouvellement de mon Norton ne sont plus valides, puisqu'ils sont expirés. J'avais 3 mois, et puis je suis malin, ce que je vais faire, je vais changer l'horloge de Windows, je vais dire que nous sommes le 15 septembre 2000, et puis je remonte dans le temps, et comme ça je vais pouvoir accéder à la base de données Norton, et puis je vais télécharger très facilement la nouvelle version de Norton, la mettre à jour. Les étudiants qui doivent sourire, de savoir comment on fait, eh bien c'est un délit. C'est un délit car vous êtes dans la qualification de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, donc vous risquez de la prison et une forte peine d'amende. Donc, toutes ces qualifications pénales qui sont un petit peu méconnues des gens qui pratiquent les technologies d'information sont importantes. On n'ira pas chercher, on n'ira pas embêter les étudiants dans les universités, puisqu'on sait parfaitement que c'est en piratant eux-mêmes les logiciels qu'ils vont se former au logiciel et qu'après, quand ils seront en entreprise, eh bien, ils seront habitués à travailler tel logiciel, donc leur employeur leur fournira tel ou tel type de logiciel de travail. Mais les entreprises et les administrations, elles, doivent être particulièrement vigilantes sur ce type de, sur ce type d'infraction. Je ne reprends pas l'affaire quittez-toi.com, puisque monsieur, votre question portait dessus et illustrait parfaitement ces différents textes. Alors il y a un projet de loi actuellement qui est le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ce projet de loi a été adopté en février de cette année par l'Assemblée nationale et puis est en cours de discussion devant le Sénat. D'après les informations qui m'ont été rapportées, il devrait être voté par le Sénat le 21 ou le 22 octobre de cette année. Et à chaque fois que je dis ça, eh bien, je suis démenti puisqu'on est reporté 3 mois plus loin. Vous vous souvenez avec la fameuse LSI, loi sur la sécurité informatique, eh bien, elle a été également reportée, si bien reportée qu'il y avait un changement de majorité et qu'elle est passée à la trappe. Ce projet de loi dans la confiance pour l'économie numérique vient renforcer les dispositions de la loi Godefrin. D'un point de vue général, toutes les infractions sont pratiquement doublées. Lorsque c'était 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, eh bien, on est à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc, il y a un raffermissement très sensible et très palpable de l'appréhension par les pouvoirs publics de l'importance qu'il y a à faire peser sur les différents acteurs de la criminalité informatisée des peines beaucoup plus lourdes dans un souci dissuasif. Vous faisiez la remarque en off tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'affaires de sociétés qui déposaient plainte pour atteinte au système de traitement automatisé de données, en violation de leur système d'information. Effectivement, peu de sociétés déposent plainte pour des raisons d'image, pour des raisons commerciales, parce que lorsque vous allez déposer plainte, il va y avoir un procès public, et les journalistes vont s'intéresser à la question et qui vont s'apercevoir que bon, ben, vous êtes une grande société, une grande banque, une grande assurance, tout ce que vous voulez, et vous êtes censé offrir une certaine sécurité à vos transactions, à vos paiements électroniques, et tout ce que vous voulez, et vous vous êtes fait pirater tel jour, à telle heure, et ça vous a causé tel type de dommages, ça a causé tel type de dommages à votre clientèle. Donc pour ces raisons d'image, les entreprises sont extrêmement réticentes à déposer plainte. C'est un tort à mon avis, parce que l'aspect dissuasif n'est pas uniquement fait par l'inscription dans la loi pénale de peines fortes, si ces peines ne sont jamais ou rarement mises en œuvre. L'aspect dissuasif, c'est dans la mise en œuvre de la loi pénale. Parce que même si nul n'est censé ignorer la loi, je mets au défi quiconque de connaître l'intégralité du code pénal, l'intégralité des infractions pénales qu'il est susceptible de connaître dans la vie de tous les jours, y compris dans sa vie professionnelle. Donc c'est plus par l'exemple et par la jurisprudence que réellement par l'insertion dans le code pénal de nouveaux tests. Autre remarque était pertinente. Alors, la loi sur la confiance de l'économie numérique vient de nous introduire une nouvelle disposition, introduira probablement et même certainement une nouvelle disposition, c'est le fait de fournir des moyens permettant de commettre des atteintes au système de traitement automatisé de données. Je ferai le parallèle avec un reportage que j'ai vu récemment sur une chaîne de télévision où on voyait des gens qui flaguaient sur les murs et puis on voyait un commerçant qui vendait à proximité dans une cité, il vendait des bombes spéciales tag, il lançait la publicité en disant celle-là est complètement indélébile, pour étaler sur un tout type de surface, sur tout type de béton, sur la pierre, sur tout ce que vous voulez. Il y a là un petit peu ce texte qui viendra combler une petite défaillance, puisque fournir des logiciels qui permettent assez facilement, des systèmes qui permettent facilement de décrypter de manière indue, de pénétrer facilement un système pour connaître les numéros IP des machines, etc., entre dedans, voire créer de fausses cartes, etc. Tous ces systèmes seront lourdement sanctionnés par la loi, avec bien évidemment quelques exceptions pour la recherche scientifique, pour la recherche même des infractions. Il est évident que les autorités ont besoin de ce type de système et les ont à leur disposition. D'autres infractions sont applicables, et je retiendrai à l'utilisation des PIC, c'est le grand mal américain, heureusement, leur tourne.
Non, c'est là.
C'est l'usurpation d'identité. Aux États-Unis, ils se sont très peu préoccupés de la question des données à caractère personnel. Le sport national est devenu l'usurpation d'identité sur les réseaux, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir un avantage économique ou que ce soit. Le code pénal, lui, permet d'appréhender, dans son article 441.1, l'usurpation d'identité, y compris par l'utilisation de données informatiques qui permettent d'identifier la personne. Autre article vise les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, sur les articles qui sont rarement employés, pour des raisons que vous imaginez bien, parce que lorsqu'ils sont employés, c'est que la nation est en danger. Pour certaines informations, l'utilisation des technologies d'information est une circonstance aggravante. Alors, je retiendrai essentiellement, je ne l'ai pas dans mon PowerPoint, mais je retiendrai essentiellement les infractions qui sont commises à l'encontre des mineurs, et plus particulièrement de la pédophilie. Le fait d'avoir été en contact avec un mineur et d'avoir vu sur ce mineur des actes éminemment répréhensibles de pédocriminalité, je n'aime pas trop le terme de pédophilie, mais de pédocriminalité, et bien lorsque ces actes ont été commis grâce à une mise en contact par les réseaux télématiques et les technologies d'information, et bien les peines sont aggravées. Les peines sont aggravées. Je vous en parlais dans mon introduction, les fournisseurs d'accès à l'Internet et les hébergeurs ont déjà un certain nombre d'obligations qui sont issues de la LSQ, de la loi sur la sécurité au quotidien du 16 novembre 2001, votée par la précédente législature, ont l'obligation de conserver les données permettant la constatation des infractions. La loi sur l'économie numérique va venir préciser quel type de données elles doivent conserver, combien de temps elles doivent les conserver et à quelle finalité. Pour l'instant, d'un point de vue générique, on conservera les données de connexion une année, lorsqu'elles permettent de constater des faits délictueux. Alors pour les gens qui travaillent dans les télécoms, ça doit les interpeller puisque le code des postes et télécommunications les contraint à anonymiser les données de connexion dès la fin de la connexion. Bien, cette disposition est dérogatoire au code des postes et des télécommunications. Alors ces données, évidemment, sont des données éminemment sensibles. À qui sont-elles accessibles? Elles sont accessibles en principe à l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire, c'est uniquement les juges, instruction, parquet, ce n'est pas la police. L'autorité judiciaire, ça n'est la police que lorsqu'elle est diligentée par le juge, c'est-à-dire la police judiciaire. La loi de finances rectificative pour 2001 a élargit considérablement l'accès à ces données de connexion aux agents du fisc, ce qui est évidemment utile pour cette administration, pour notamment tracer les flux financiers et les flux financiers a priori coûteux, les douanes et les enquêteurs de la commission des opérations de bourse, puisque comme vous le savez, il y a de plus en plus de tractations boursières qui se font via l'Internet, et d'informations boursières qui circulent via les réseaux. Le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique vient alourdir un petit peu la responsabilité et préciser quelle serait la responsabilité civile et pénale des fournisseurs d'accès à l'Internet. Ils vont avoir, si la loi est votée dans les termes de son projet actuel, j'ai eu la chance de pouvoir consulter, ils vont avoir l'obligation de vérifier, de détenir, de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque à contribuer à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Au préalable, c'était la loi du 1er août 2000 qui venait réformer la loi 86 sur l'audiovisuel qui instituait une obligation d'identification des auteurs de contenu, mais sans vraiment nous dire qui étaient les auteurs et quelles données devaient être conservées. Ce qui fait que les fournisseurs d'hébergement n'avaient en réalité qu'une obligation de moyens. Ils n'avaient qu'une obligation de moyens, et ils n'avaient donc qu'une obligation de récolter des données déclaratives, l'identification des gens qui font héberger chez eux leur contenu. Avec ce projet de loi, ce ne sera plus question d'une obligation de moyens, de se contenter de la déclaration des personnes, mais de vérifier qui sont les personnes qui hébergent des contenus que les prestataires d'hébergement mettent en ligne. C'est un petit peu logique, puisque la loi impose à tout éditeur de contenu sur l'Internet ou ailleurs de dire qui il est. Le directeur de la publication ou à mentionner sur le site qu'il est le directeur de la publication et donc qu'il est le responsable éditorial de ce qui est édité à l'intérieur du site. Et on ne voit pas pourquoi l'hébergeur également n'aurait pas l'obligation d'identifier les personnes qui mettent du contenu via ses propres services d'hébergement. Je vous ai déjà parlé de l'article 226.17 qui est éminemment important, et je le rappelle. Un décret viendra intervenir pour vous préciser la durée et les modalités de conservation des données de connexion, mais le décret suppose 1) l'adoption de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, 2) sa mise en application, et 3) le décret. On n'est pas encore là d'avoir le décret. Alors les interceptions légales et le déchiffrement des messages codés, des messages suspects, c'est l'application de la loi sur les écoutes. La loi sur les écoutes, sur les interceptions de sécurité, toutes ces interceptions sont extrêmement réglementées. Il n'est pas question pour un opérateur téléphonique, pour un employeur au sein de son entreprise, d'écouter les conversations, quoi que ce soit. De telles écoutes ne peuvent être faites que dans un cadre judiciaire diligenté par un juge, voire diligenté par le ministère de la Défense lorsque sont en jeu les intérêts primordiaux de la nation. Donc c'est extrêmement réglementé, mais les magistrats devront avoir la possibilité d'accéder aux conventions de chiffrement, c'est-à-dire à tout ce qui permet, évidemment, vous savez, de crypter ce qui transite sur les réseaux via les systèmes de communication, et toute personne qui a à sa disposition les clés de chiffrement devra soit permettre la mise en œuvre de ces clés pour rendre l'information claire, soit remettre à l'autorité judiciaire, au magistrat, les clés de chiffrement afin qu'il puisse avoir l'information en clair, vérifier si elle est délictueuse ou pas. Alors je vais dresser un petit peu un panorama où on excuserait assez bref et assez concis. Prêt à répondre à toutes les questions par la suite. Vous l'avez compris, l'appréhension par le droit pénal d'éthique est extrêmement vaste. La grande question, c'est la question internationale. C'est la question de la coopération entre les États. Comment est-ce que les États font pour coopérer lorsque sont commis sur les réseaux des infractions? Vous avez tous entendu parler de l'affaire Yahoo, qui avait posé un problème juridique assez sérieux, qui avait été partiellement contourné par le juge français, le juge des référés, mais la justice américaine n'avait pas donné suite, n'avait pas exécuté la décision dans la période rouge, qui est tout à fait au plan juridique, procédural, normal, eu égard à la territorialité des infractions. Un texte qui est un texte important, puisque c'est un texte coercitif pour les États, c'est un texte qui arrive à créer, qui aura créé en quelques mois, un ensemble juridique cohérent, alors que dans d'autres matières, il aura fallu plusieurs dizaines d'années pour parvenir à un système juridique cohérent. La Convention sur la cybercriminalité, qui a été signée le 23 novembre 2001, oblige et contraint les États à harmoniser sur une base minimale commune leur législation et leurs procédures en matière d'infractions liées aux technologies de l'information, en matière d'interception et en matière de déchiffrement. Par exemple, les États s'obligent à adopter les mesures nécessaires pour pouvoir enjoindre à une personne, quelle que soit entreprise, personne privée, de conserver des données. C'est déjà ce qui avait été fait par, en droit français, par la loi du 1er août 2000, qui réformait la loi 86 sur l'audiovisuel, et désormais par la loi sur la LSQ, puis par la loi sur l'économie numérique. Mais ça, c'est au plan européen, lorsqu'on dit au plan européen au sens du Conseil d'Europe, c'est 51 pays. Donc ce n'est pas uniquement l'Europe des 15 ou l'Europe des bientôt 25, plus des pays qui se sont intéressés, y compris les États-Unis et de mémoire le Japon pour signer la Convention du Conseil de l'Europe, donc une convention qui est ouverte. Les États doivent habiliter des administrations ou des autorités compétentes pour qu'elles puissent enjoindre personne présentes sur le territoire et aux fournisseurs de services à communiquer au juge qui en fait la requête, c'est-à-dire au juge étranger, les informations en leur possession. Alors l'harmonisation des législations répressives, au plan français, ça ne nous concerne pas trop, puisqu'on a un arsenal législatif assez complet, mais il y a un certain nombre de pays qui n'ont absolument aucune législation pénale, soit sur l'atteinte au système de traitement automatisé de données, soit sur d'autres qualifications pénales qui peuvent concerner la pédophilie sur le réseau, etc. Certains pays membres du Conseil de l'Europe n'ont aucune législation. C'est pour cela qu'est prévue une harmonisation législative et l'obligation pour tous ces pays de se mettre en conformité et d'adopter des règles pénalement coercitives pour les individus et pour les entreprises. Les administrations des membres des pays, des pays membres du Conseil de l'Europe doivent être habilitées à perquisitionner dans les systèmes informatiques. Ça, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. La question qui s'est posée, qui s'était déjà posée lors du G8 du mois de mai 2000 sur la cybercriminalité, c'était le problème des perquisitions transfrontalières. C'est-à-dire, moi, État français, est-ce que je peux perquisitionner via les réseaux dans le système d'information d'une entreprise qui est située dans un pays membre du Conseil de l'Europe, par exemple la Russie. Est-ce que je peux faire ça? Eh bien, les discussions ont été assez loin, finalement, n'ont pas abouti, puisque d'une part, la plupart des pays n'ont pas voulu admettre dans les rounds de discussion, bien qu'ils avaient à leur disposition des outils qui leur permettent de faire ce type de perquisition sans laisser de traces, puisque c'est le cas, c'est pas dans les États, compris la France, c'est normal, vu son niveau technologique, ont la capacité de faire ce genre de manipulation, ce genre d'opération. Il était un petit peu délicat lors d'une convention internationale de dire bah, nous on a la technologie et il serait bon de s'harmoniser, que tout le monde utilise cette technologie qui permet de venir perquisitionner dans un État étranger. Donc le problème des perquisitions transfrontalières reste en suspens et n'a pas été tranché par la Convention sur la cybercriminalité. Cette convention institue un principe de coopération assez fort, c'est-à-dire que chaque pays doit désigner une autorité compétente, une autorité administrative ou une autorité judiciaire, qui soit l'interlocutrice directe des autres autorités, c'est-à-dire sans désormais passer par la voie diplomatique, qui est une voie extrêmement longue et aléatoire au plan procédural. Je n'étends pas sur les règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales, c'est la base minimale, mais le gros défaut de cette convention, c'est qu'il y aura une base minimale pour les infractions, mais chaque État, puisqu'on respecte la souveraineté des États, a la possibilité tout de même d'adapter les infractions qu'il doit insérer dans son ordre juridique à son propre ordre juridique, c'est-à-dire à son ordre public. Qui fait qu'on va tout de même avoir un certain nombre de qualifications pénales qui pourront être différentes dans un pays ou dans l'autre. Ce qui fait que ça fera le bonheur des juristes spécialisés dans la question lorsqu'il sera question de savoir si une procédure est valable et si on peut valablement poursuivre une personne en France sur des informations qui ont été récoltées par une autre procédure dans un autre pays qui n'a pas exactement la même qualification pénale. Là, on sera dans les véritables arcanes du droit. La Commission européenne, à la suite de cette convention sur la cybercriminalité, eh bien, elle a ingéré les quelques manques de cette convention internationale et prépare le terrain de l'harmonisation au plan européen, en émettant une proposition de décision cadre. Cette proposition de décision cadre, elle est d'avril 2002 et elle concerne un certain nombre de qualifications pénales communes aux États membres de l'Union européenne et un principe de coopération. Elle crée un petit peu, en s'inspirant du droit français, une qualification pénale à insérer dans les ordres juridiques des différents États membres, qui est celle d'accès illicite à des systèmes d'information. C'est globalement et même précisément la même chose que les accès illicites qui sont prévus par la loi Petitfrin, la loi française. À ceci près qu'elle intègre une nouveauté qui sera probablement intégrée dans les législations des États membres, c'est l'infraction d'interférence illicite avec des systèmes d'information. Notre droit positif français, lui, ne s'intéresse qu'à la destruction de données, qu'à l'atteinte de données, lorsqu'on intervient dans le système d'information, il y a l'atteinte consécutive aux données, c'est-à-dire qu'elles sont détruites, qu'elles sont déformées. C'est à ce moment-là que l'infraction pénale est constituée. Cette proposition cadre de la Commission européenne crée véritablement une nouveauté, puisque l'interférence illicite, ça sera tout de même quelque chose d'assez large, c'est le fait d'interagir sur des données, c'est-à-dire de les perturber à distance, d'essayer de les modifier, ou peut-être simplement, par simple négligence, eh bien, d'y attenter. Donc une qualification différente, et le droit français devra s'y adapter. Alors je rappelle, je fais une petite parenthèse, et je rappelle que la Cour de cassation en France ne reconnaît pas le vol d'informations électroniques. C'est-à-dire que le fait de voler une information électronique, c'est-à-dire de la capter sur un réseau, de la détourner, n'est pas constitutif de l'infraction de vol. On est obligé donc de se retourner vers la qualification d'atteinte à un système de traitement automatisé de données et d'atteinte aux données consécutives. Avec cette qualification, on devrait pouvoir contourner la difficulté du fait que la Cour de cassation considère toujours que le vol d'information ne peut être réalisé que s'il y a le vol de support. C'est-à-dire le vol d'une disquette, le vol d'un disque dur, le vol d'un morceau de papier. Sinon, le détournement d'information, eh bien, c'est soit l'atteinte au système de traitement automatisé de données, soit les délits de contrefaçon, si tant est que ces informations aient été protégées par le droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire par le droit d'auteur. Donc, qu'elles aient été originales et créées par un auteur, personne physique. La proposition de la Commission européenne, eh bien, ce sont des peines minimales pour toutes les infractions qui concernent les atteintes au système d'information, des circonstances aggravantes et la responsabilité de personnes morales. Ça ne nous touche pas beaucoup au plan de droit français, puisque toutes les infractions liées au TIC, plus particulièrement celles des infractions qui visent les TIC, c'est-à-dire les atteintes au système de traitement automatisé de données, la responsabilité des personnes morales, la responsabilité pénale des personnes morales, est déjà prévue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Je reste à votre disposition pour les questions.
Merci, maître, pour cette présentation, ce panorama global de droit pénal concernant la sécurité des systèmes d'information. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions, il y en avait eu tout à l'heure.
Exacte de ce type d'outil, parce que donner une définition exacte d'un type d'outil, c'est s'orienter vers un certain type de technologie et c'est à terme éventuellement rendre la loi très rapidement désuète.
Est-ce que d'après
vous, de toute manière, le texte prévoira tout type de moyens, tout type de procédés ou de systèmes. C'est-à-dire, quelle que soit l'ingéniosité du système, si c'est un système logiciel, si c'est un système à moitié crypto, si c'est un système, tout ce que vous voulez, qui utilise un virus, qui utilise autre chose, un système physique. Ah, l'équivalent virtuel ne sera répréhensible que si de manière explicite l'outil a été réalisé à des fins de commettre une infraction. C'est-à-dire que si l'utilisation principale de l'outil, c'est de craquer un code, c'est de détourner la sécurité d'un système d'information, si l'outil a été composé, le fait de détourner un outil existant de son usage, si c'est un outil qui est un boîtier crypto qui a été édité par telle société avec une carte à puce, tout ce que vous voulez, et que vous, en tant que petit génie informaticien, vous allez tourner ce système de son usage primitif pour commettre une infraction, l'éditeur et le créateur à l'origine du système, lui, ne sera pas inquiété au plan pénal. Ce sera l'utilisateur qui sera inquiété. Ce ne sera pas le fait de créer. Là-dessus, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Parce que je ferai le parallèle entre le droit pénal, entre guillemets, classique. N'importe quoi peut devenir une arme par destination. Si je me lève et que je donne un coup de micro sur la tête d'une personne, ceci est une arme par destination, ce sera une violence avec arme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour autant que le fabricant du micro sera inquiété au plan de sa responsabilité pénale pour avoir fabriqué une arme. Là, je suis d'accord avec vous, c'est une question de bonne ou de mauvaise foi à démontrer. Éventuellement, ce sera la personne en défense, si jamais elle était attaquée pour, sur le fondement de cette qualification, d'avoir créé un système ou un procédé visant à permettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, ce sera à lui de démontrer qu'en fait son procédé n'a pas du tout pour finalité d'attenter à la sécurité d'un système d'information, mais la finalité du procédé, elle est tout autre. C'est un petit peu tôt pour dire si ce sera préventif ou pas. Le droit pénal est toujours préventif. Le fait que le texte existe dans le code pénal, il a un effet préventif. Il est censé vous dissuader, vous, de n'importe quel citoyen, de mettre en œuvre ce type de procédé, de le fabriquer à des fins de commission d'infraction. Maintenant, d'un point de vue préventif, c'est pas pour ça que les services spécialisés de la police judiciaire vont venir scanner tous les disques durs des universités pour voir si on ne trouve pas quelque chose qui ressemblerait à des outils qui permettent de pénétrer dans des systèmes d'information. C'est plutôt à l'occasion de la constatation d'un délit et de la manière dont ce délit a été constaté que l'on essaiera d'identifier l'outil qui a permis de rentrer dans le système d'information, après de savoir d'où vient cet outil, et éventuellement de chercher à savoir si la responsabilité pénale de celui qui a créé l'outil à la base peut être recherchée. C'est plutôt dans ce cheminement-là l'information que vraiment dans un cheminement purement préventif où on va chercher, ou chercher de toute façon. Vous pouvez être chez vous et avoir des informations sur une disquette qui concerne un tel outil. Que le texte prévoit déjà un certain nombre d'exceptions, c'est-à-dire les exceptions qui sont liées à la recherche et au développement, le fait d'être dans un labo universitaire, dans un labo d'une société en sécurité informatique qui travaille sur ces questions, et bien de travailler sur ces types d'outils et de faire de la recherche sur ces outils, bien, ne sera pas constitutif d'une infraction. C'est tout de même la moindre des choses que l'on puisse attendre de notre législateur. Et bien évidemment, les outils qui ont pour dessein de prévenir les infractions et de protéger un système ne sont pas concernés par la définition du texte. La définition du texte tel qu'il sera voté, c'est de cerner l'outil qui a pour finalité de commettre un délit. Lorsque vous êtes administrateur réseau, vous voulez contrôler ce qui se passe avec un droit légitime en tant qu'administrateur réseau, c'est normal, vous avez l'obligation de sécurité, notamment si vous avez des données à caractère personnel. Vous devez mettre en œuvre tout ce qui est dans votre pouvoir technique pour assurer la sécurité de votre réseau et de vos données. Ce type d'outil fait partie de l'obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection du réseau. Donc on ne peut pas, on ne pourra pas qualifier l'infraction, parce que on va revenir, je vais revenir à la base du droit pénal. Une infraction pénale, c'est un élément matériel, un élément légal et un élément intentionnel. L'élément matériel, même s'il était constitué, est-ce que l'élément intentionnel de commettre l'infraction serait constitué? Non. L'infraction peut être constituée qu'avec ces trois éléments. Dans le cas que vous me décrivez, même si l'élément matériel, c'est-à-dire la réalisation d'un outil permettant de rentrer dans un système de traitement automatisé de données est constitué, l'élément matériel en lui-même n'est pas constitué, et à ce titre, l'infraction pénale n'est pas constituée, la personne ne peut pas être poursuivie. On va redescendre un petit peu, M. Anvers, et puis on remonte.
J'en profite pour rebondir sur la question et sur la réponse. Donc, je vais commencer par la réponse. C'est par rapport aux exceptions que vous donniez, si c'est reconnu comme étant un abus de recherche, si c'est un critère ou un abus de sécurité, etc. Mais si on prend le cas, par exemple, de quelqu'un qui a un abus de sécurité de l'entreprise, qui démissionne, qui part, qui tombe l'eau, donc pendant 6 mois, 1 an, il est sans travail, il continue à travailler sur un outil qui est reconnu dans son milieu, et que son outil est utilisé avec un ambitieux, lui, il n'a pas l'autorité qui l'étiquette externe de la labo de sécu ou externe de la voie, comment il pourrait être entre guillemets volé pour le sens de
l'étiquette. Déjà, votre informaticien qui travaille dans un labo et qui en est parti, on se pose la question de savoir s'il a cédé ses droits ou pas, si c'est un labo privé ou si c'est un labo public. Si c'est un labo public, a priori, il a cédé de fait les droits qui portaient sur ses créations. Si c'est un labo privé, si c'est uniquement du logiciel et qu'il a un lien de subordination, il aura également cédé ses droits au labo en vertu de son contrat de travail, sauf disposition contraire à son contrat de travail. Donc on devra apprécier déjà en amont tout ça, savoir s'il emporte des droits sur le logiciel ou pas, pour essayer d'aborder son éventuelle responsabilité. Après, s'il continue à bidouiller dans son coin alors qu'il a cédé ses droits sur le logiciel ou sur ce qu'il avait créé ou sur ce qu'il avait développé dans le labo, déjà, il est dans le cas d'être contrefacteur de ce qu'il avait créé. Après, s'il n'est plus dans un labo et s'il travaille tout seul dans son coin, qu'il développe un outil qui serait susceptible de tomber sous cette qualification, il tomberait lui-même sous la qualification, à supposer, un, qu'il se serve de cet outil, et deux, qu'il le mette à disposition de quelqu'un qui commette une infraction. Parce que vous pouvez développer un outil, le tester chez vous, par exemple sur un LAN, sur un réseau fermé, pour regarder si vous pouvez bien pénétrer sur votre réseau, etc. Personne ne va venir regarder ce que vous avez fait et ce que vous avez développé comme outil. On viendra vous poser la question que si vous l'avez utilisé à des fins criminelles, délictueuses, ou si vous l'avez mis à disposition de quelqu'un qui l'a utilisé à des fins délictueuses. Alors, pour ce qui concerne les expertises, les experts qui sont désignés par des juges sont des experts qui sont en principe reconnus pour leurs compétences en la matière. Lorsqu'un juge a une question extrêmement spécifique à demander à un expert, il peut également déléguer une autre personne qui n'est pas inscrite auprès de la cour d'appel en tant qu'expert judiciaire. C'est-à-dire qu'il peut faire appel à ce qu'on appelle un amicus curiae, c'est-à-dire l'ami de la cour. C'est-à-dire qu'il va demander une personne particulièrement reconnue dans la profession. Ça peut être un scientifique de haut niveau de la DCSSI, ça peut être quelqu'un qui travaille aux chiffres au SGDN ou tout ce que vous voulez, ça peut être quelqu'un d'extrêmement compétent et on lui demande son avis d'expert sur l'outil. Maintenant, ces types d'outils, s'ils existent, seront en principe déclarés auprès de la DCSI. À votre bon cœur, monsieur, dame, déclarer les outils.
On va prendre une dernière question avant.
Pardon, tout à l'heure, par exemple, pour le logiciel, aujourd'hui, quand on développait un logiciel, hier, quand on développait un logiciel, on mettait un texte comme quoi on le développait dans un outil éducatif. Est-ce que ça veut dire que demain, est-ce qu'il faut toujours mettre 8 morceaux de texte ou demain, ce texte ne pourra rien et donc on pourra simplement à l'auteur. Ou tu manges des
textes, il sera tranquille. Tu manges des textes, il sera tranquille.
Non mais pour répondre spécifiquement à votre question, le simple fait, si jamais on venait essayer de chercher votre responsabilité en tant que directeur d'un labo, parce que vos étudiants ont mis au point des logiciels spécifiques, le simple fait que vous démontriez d'un point de vue matériel que ce logiciel a été développé au sein du labo à des fins pédagogiques, suffit à vous faire rentrer dans l'exception et à ce que ne soit pas retenue une quelconque responsabilité pénale, même si vous n'avez pas mis une étiquette sur le logiciel développé à des fins pédagogiques. Maintenant, le fait de marquer dessus développé à des fins pédagogiques préserve votre bonne foi et ça ne coûte rien de continuer à le mettre. Et ce n'est pas ça qui vous protégeait auparavant et ce n'est pas ça qui vous protégera auparavant. C'est le fait de rapporter la preuve matérielle que c'est effectivement fait dans le sein du labo et des fins pédagogiques.
On va arriver là, je vais profiter de préserver les fonds, de couper pour préserver les fonds. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser individuellement à Mathieu Zélenser. Je vous remercie pour votre attention.
Merci.